Dougadline, bonjour.
Bonjour.
Alors, quand nous étions vus en juin, vous m'aviez annoncé un vague projet pour 2025. En fait, c'est bombe que vous me donnez là. Carrément, une nouvelle édition, Air Noir, donc dans chez Dupuis. En quoi Air Noir correspond-il à un besoin chez vous et peut-être chez d'autres auteurs quand même?
Alors c'est une opportunité en fait, c'est-à-dire que on s'est dit avec mon camarade éditeur Olivier Jalabert et Stéphane Beaujean, le directeur éditorial de Dupuis, qu'il manquait un versant polar, disons, ou roman noir graphique chez Dupuis, dans la mesure où on avait des auteurs et des propositions qui étaient dans ce genre-là, qui étaient vraiment du policier ou du noir, et qu'on n'avait pas vraiment le terrain pour les accueillir, et qu'il fallait donc le créer. Et on a ce magnifique label Air Libre qui existe depuis quelques décennies, qui est un peu le symbole de la qualité littéraire du roman graphique adulte de belle qualité, avec un dessin magnifique, des histoires avec une densité de tueur assez forte. Bon, c'est une collection qui a un historique assez étonnant et assez unique. Et on se dit, bon, on a des livres dans Air Noir qui peuvent être dans Air Noir et qui, pour l'instant, sont dans Air Libre. Il y en avait qui, pour moi, étaient évidents. C'était les livres que je fais avec Max Cabane depuis une quinzaine d'années, à adapter des bouquins de Manchette. Donc ça, je trouvais que c'était tout à fait opportun de les passer dans un label clairement identifié polar. Et puis, on a eu aussi d'autres livres qui étaient plus difficiles à placer. Par exemple, Le Contrapasso de Teresa Valero, qui est un bouquin incroyable qu'on avait sorti en 2021 sans très bien savoir où le placer, et qu'on avait finalement sorti sous label Dupuis en ne mettant pas dans Air Libre. On s'est dit, c'est dommage qu'on n'ait pas quelque chose d'un écrin un peu spécifique où mettre cette histoire de trois enquêteurs journalistes à Madrid dans les années 50 qui traquent un serial killer sous le régime franquiste. C'était un truc tellement incroyable et étonnant que on s'est dit, bon, on balance ça un peu, on sait pas trop où ni comment, et il nous faudrait quelque chose, une sorte de d'étagère.
Ça veut être plus même pour le tome 2, justement.
Voilà. Alors, on a dit, bon, on a besoin d'un espèce d'écran et d'outil pour accueillir ces livres et des projets que des auteurs nous proposent qui sont dans ce registre-là. Donc, de Air Libre, on est passé à Air Noir, et donc on crée une espèce de nouvelle ère chez Dupuis, où on va pouvoir accueillir un nombre limité, parce qu'on ne cherche pas à faire énormément de bouquins, hein. On veut en faire, je sais pas, 3-4 par an, on verra, en fonction de ce qui se présente. Il n'y a pas d'obligation de publication, on n'a pas un nombre de titres défini, on va faire les livres qui peuvent s'y intégrer.
Et puis combien de temps vous travaillez sur ce projet?
Ça fait un petit moment, puisque Contrapasso, le tome 1, était sorti en 2021, donc on a déjà eu cette problématique à ce moment-là, et on a commencé à tourner avec Stéphane Beaujean autour de l'idée de créer cette collection. Puis Olivier Jalabert, qui venait de chez Glénat, est arrivé chez Dupuis. Il avait aussi dans son escarcelle un ou deux projets polars qui pouvaient bien s'y intégrer, avec des auteurs nouveaux, quelqu'un comme Jérémy Guess, qui est un scénariste et cinéaste français tout à fait intéressant, qui pouvait bien se marier aussi avec des choses qu'on était en train de mettre en place. Et à ce moment-là, j'étais entré en discussion avec Madame Donald Westlake, Abigail Westlake, pour adapter des romans de son défunt mari, que j'ai eu la chance de connaître. Et ça aussi, ça pouvait rentrer là-dedans. Ça nous donnait donc un espèce de triple volet à cette potentielle collection, qui était de la création originale, des nouveaux scénarios et des choses pas existantes, de l'adaptation de romans classiques ou moins classiques, mais qui étaient eux des œuvres littéraires déjà présentes, et puis de la reprise de certains titres qui étaient chez Dupuis dans d'autres collections ou hors collections et qui pouvaient s'y intégrer. Tout ça ne fait pas un nombre de livres démesuré, hein. On parle de 5 livres la première année, 4 livres ou 3 les années suivantes, voilà, en fonction. Peut-être qu'il y a des années, il n'y en aura que 2 ou 1. Enfin, vraiment, on veut pas forcer la dose, quoi.
Une collection, c'est une façon de fédérer les auteurs?
Et je pense que c'est un signe distinctif, c'est une espèce de marque de fabrique et de signal pour les lecteurs et les libraires qu'on s'inscrit dans une logique cohérente, pas répétitive, mais de la même manière que le roman policier n'est pas répétitif, mais extrêmement varié sous toutes ses formes, hein, parce que de Ingrid Hudson à James Ellroy, il y a beaucoup de latitude. Et je sais pas, enfin, il y a tellement de richesses dans ce genre qu'on peut avoir toutes les époques et toutes les latitudes là-dedans. C'est une collection qui est assez ouverte, qu'en fait, il y a simplement le code distinctif qui va permettre peut-être aux auteurs d'avoir envie de s'identifier et de venir nous proposer, je l'espère, des projets dans ce registre-là, dans du roman noir graphique. Quoi. Voilà, c'est du roman noir graphique avec une densité littéraire, j'espère, comparable à celle qu'on peut éprouver quand on achète un roman de Michael Cerny ou un Série Noire ou un Harlan Coben ou voilà. C'est ça qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une proposition de lecture, une promesse de lecture qui soit vraiment tenue et satisfaisante pour le lecteur.
Alors le premier chapitre de l'aventure est Air Noir, c'est Parker, donc une adaptation du polar de Richard Stack, The Soul Lemon Score, qui avait été traduit en français Un petit coup de vinaigre. Qui a été publié en 69, même année où se situe finalement l'action. Pourquoi ce roman parmi les 24 mettant en scène Parker?
Alors Parker, c'est un personnage qui a un passé, puisqu'il a été créé par Wesley sous son pseudonyme de Richard Stark en 1961 et adapté quelques années après au cinéma avec Lee Marvin dans le fameux film Le Point de non-retour de Voorman, qui est un chouette.
C'est The Hunter.
Voilà, c'était le premier. Et puis ensuite, il y a eu d'autres adaptations au cinéma avec des gueules diverses. Hein. En France, on a eu Michel Constantin. Aux États-Unis, il y a eu Robert Duvall, puis Mel Gibson, puis plus récemment Jason Statham. Bon, il change de tête à chaque fois, en fait. Mais bon, c'est un personnage un peu granitique, un peu emblématique du polar. Je pense que c'est un des grands héros du roman policier du XXe siècle, quoi. Et il a même passé le XXIe, puisque Westlake a écrit des aventures de Parker, je crois qu'il y en a 23 ou 24 en tout, de 61 à 74. Et ensuite, il a fait un break, il s'est arrêté pendant 25 ans, et il a repris en 98. Il a dit que Parker l'avait un jour, du jour au lendemain, il l'avait déserté, et que ce personnage n'était plus dans son imaginaire, qu'il n'avait plus sa voix en lui. Et puis tout d'un coup, ça lui est revenu, et il a refait toute une série de romans de 1998 à son décès en 2008. Donc il y a une espèce de deuxième époque de Parker qu'on n'a pas encore abordée, mais j'espère qu'on y viendra. Voilà, donc c'est le personnage en lui-même, c'est un archétype, c'est un braqueur, un casseur, un voleur de banque et d'autres choses de première force. C'est vraiment un champion dans sa partie. Et il a cette particularité d'être très efficace et de ne pas avoir beaucoup de sentiments. C'est-à-dire c'est pas un méchant, c'est pas non plus un gentil, il va juste faire ce qu'il faut pour que l'argent rentre dans sa poche, pour réussir ses coups, pour se débarrasser de ses ennemis quand il en a.
Faut l'embêter, donc.
Il faut pas l'emmerder. Oui, il est là pour aller au bout de sa démarche et rien ne l'arrête. Donc c'est un beau personnage en son sens.
Tome 1 vient de sortir, donc il est sous-titré La Proie. Tome 2, La Captive, il est prévu pour quand?
Alors La Captive, ce sera pour probablement la fin de l'année prochaine, fin 2026 si tout va bien. Et on va essayer d'en faire un tous les 1 an et demi, 2 ans au maximum, pour pas laisser trop de temps entre chaque épisode. Mais pour revenir sur la date du premier, oui, c'est un livre qui se situe, disons, au début d'une période où Parker va connaître des difficultés toujours croissantes jusqu'à la fin de cette première époque en 74. Et là, on a 4 ou 5 livres à faire où c'est vraiment des cases qui tournent mal, des trahisons impossibles, où il va devoir vraiment sauver sa peau. Donc c'est plein de suspense et de rebondissements, c'est très agréable à adapter. Et puis, c'est aussi une époque assez formidable, puisque c'est le tournant des années 60 aux années 70. Donc là, le monde déjà est en train de se transformer. Les syndicats du crime ne sont plus les mêmes qu'avant. La mafia aussi évolue. Et Parker, qui est un solitaire et un indépendant, est au milieu de tout ça et va devoir lutter pour sa survie.
Parlez-nous un petit peu de votre collaboration avec Kieran. Non, c'est Sébastien.
Alors Kieran, dont le nom réel est Sébastien Roche, c'est un dessinateur très talentueux avec qui j'étais parti sur un autre projet d'adaptation qui s'est pas fait chez un autre éditeur, et j'ai tellement aimé les essais qu'on avait fait ensemble que j'ai eu envie de vraiment travailler avec lui. Et donc je lui ai dit, attends, je suis en train d'essayer d'avoir la possibilité de faire de nouvelles histoires de Parker, qui était un personnage qu'il connaissait par son adaptation dessinée précédente, qui est la magnifique adaptation de Darwin Cook, qui était sortie en France chez Dargaud, et dont j'ai fait un bout de la traduction et l'édition de l'intégrale il y a 3-4 ans. Et en fait, on est tous des fans de cette version de Parker, qui est restée un grand moment de la BD policière. Donc Kieran l'était aussi, moi je lui dis, mais on pourrait essayer de s'attaquer à ce personnage. Il me dit, tu crois que ce serait possible? Je lui dis, écoute, on va essayer. On a fini par obtenir donc cette autorisation bienveillante de Madame Restley, qui nous a dit, allez-y les gars. Donc on a tenté le coup, et on a très très bien travaillé ensemble, c'est-à-dire qu'il a essayé d'apporter une sorte de continuité à la vision qu'avait eu Cook sans du tout répéter ce qui avait été fait précédemment. Donc on était face à un grand auteur de BD au mieux de sa forme, adaptant du polar de Richard Stark d'Anne Westlake, et il fallait qu'on passe après, donc c'était un petit peu difficile de pas répéter ce qui était fait, mais d'aller dans une autre proposition qui complète et qui poursuive celle qui avait été donnée, qui était si réussie. On a essayé de faire ça, donc de rester dans des codes graphiques avec une bichromie qui rappelle peut-être un peu Plouc, mais d'avoir un autre Parker. Déjà, son visage, sa physionomie n'est pas la même, sa manière de bouger n'est pas la même, et il y a un style particulier à Kieran qui est un peu anguleux, assez travaillé, avec des textures assez audacieuse. Par exemple, il utilise ses empreintes digitales pour créer des reliefs, de la matière dans les pages, ce qui est assez peu fréquent. On a un style un peu rétro, mais en même temps très moderne, donc je crois que c'est assez réussi graphiquement. J'ai trouvé qu'il avait fait un super travail, et on s'est très bien entendu, donc on a hâte de continuer la collaboration.
Oui, au scénaristique, c'est ce qui est assez particulier, je trouve, dans Parker, ce sont ces flashbacks. On dirait vraiment que vous avez envie de désorienter le lecteur, là.
Alors, les romans de Westlake qui mettent en scène, donc les Richard Stark qui mettent en scène Parker, sont un peu tous construits sur le même moule. Ils sont en quatre parties, généralement. La première partie, c'est la préparation et l'exécution d'un braquage. Ensuite, quelque chose se met à déraper et Parker doit essayer de se sortir d'une situation difficile. Dans la troisième partie, en général, on quitte Parker et on s'intéresse à un personnage secondaire. On voit les actions parallèles de chacun. Et à la dernière partie, la quatrième, on retrouve Parker qui, là, va retrouver tous les méchants et résoudre tous les problèmes. Donc, ils sont un peu construits tous sur cette grille, avec bien sûr des variations assez fortes, mais on a ce système qui donc implique pas mal d'aller-retour dans le temps, puisque on quitte le héros à des moments pour s'intéresser à ce qu'ont fait d'autres gens pendant que lui faisait telle autre chose. Voilà. Donc, c'est des constructions assez sophistiquées et plaisantes, parce qu'elles permettent beaucoup de voyages dans cette aventure-là. Il y a énormément de trajets. Parker poursuit un type qui l'a trahi tout le long de la côte est des États-Unis, donc il va de Washington à la Virginie, à New York, enfin, il est tout le temps en bagnole en train de poursuivre le gars qui est donc sa proie, qui au début a essayé de le tuer, mais qui ne réussit pas, et donc il va avoir Parker sur le dos pendant tout le reste du livre. Et c'est pas mal, parce que les allers-retours temporels correspondent aussi à des allers-retours géographiques. Il y a vraiment beaucoup de poursuites et de coups de théâtre dans cette aventure. Donc
au cinéma, on aurait dit du Guerrici.
C'est moins pastiche que Guy Ritchie. C'est quand même de la littérature des années 1960. Donc on est comme Parker est un personnage froid et sans sentiment, on est au premier degré avec lui. C'est-à-dire qu'on est complètement pris par son besoin de soit récupérer son fric, soit se venger, soit aller sauver quelqu'un. Dans la prochaine aventure, il va sauver sa compagne qui a été prise en otage. Bon, c'est toujours. Il n'y a pas le recul, il n'y a pas le second degré qu'il y a dans les films de Guy Ritchie, que j'aime beaucoup, hein, mais qui sont des films un peu post-modernes, comme on dit, c'est-à-dire où il y a un côté regard un peu, un peu amusé, un peu désabusé sur les formes passées. Et là, on est vraiment dans la forme pure. Et c'est ce qu'on veut essayer de faire dans la collection Air Noir dans son ensemble. On voudrait que chaque livre soit un pur exercice de style, une pure création ou recréation d'un univers policier, mais pas, on fera pas beaucoup de pas de côté, on n'aura pas de choses qui seront, il y aura pas, il faut tuer Ramirez, par exemple, il faut flinguer Ramirez, c'est pas le propos, on n'est pas là pour faire du Tarantino, on est là pour faire vraiment de la forme pure. Je préfère faire du Mickey Spillane ou du Richard Stark que de faire du Tarantino. Là, en fait, on n'a pas le second degré, a posteriori, on est dans la proposition pure, le lecteur de l'épure, oui, la forme basique.
Toujours dans Air Noir, on attend Dortmunder, d'après Donald Westlake, que vous avez conçu avec Jesus Alonso Iglesias. Et là, c'est carrément de la parodie.
C'est ça.
C'est le même, mais c'est à l'opposé, quoi.
Là, c'est les deux grands héros de Donald Westlake et de Richard Stark, puisque c'est le même homme. Stark faisait les Parker qui étaient des aventures sérieuses avec un héros musclé et qui se laisse pas faire et qui réussit un peu tout quand même. Il est un peu indestructible, il se sort de toutes les situations. Dortmunder, c'est son versant comique, c'est finalement son jumeau comique, et c'est aussi un cambrioleur, un voleur, mais il est très malchanceux et maladroit, et donc à chaque fois qu'il entame un coup, ça a l'air de bien se présenter, mais ça va tourner d'une manière désastreuse, et l'essentiel va être comment va-t-il faire pour se sortir de tous les tombereaux d'ennui qui vont lui tomber sur la tête, et à chaque fois, il y a des rebondissements hilarants. Bon, c'est très, très drôle. Hein. Il y a une vingtaine d'aventures de chacun des deux personnages, donc ça fait plus de 40 bouquins, largement de
temps. Ça veut dire, là.
Ouais, ouais, on a...
Il y avait une adaptation cinématographique avec George C. Scott.
Elle est pas bien, celle-là. Oui, mais elle est pas bien. Elle, malheureusement, le film est complètement raté. Il était réalisé par Gower Champion, qui était plutôt un homme de comédie musicale, et ça n'est pas bon du tout. Par contre, il y en a une qui est sympa, c'est celle avec Robert Redford, qui s'appelle Les quatre malfrats de Hot Rock. Qui était aussi un Dortmunder un peu glamourisé, parce que moi j'aurais plutôt vu une espèce de Paul Newman un peu vieillissant pour faire un Dortmunder. Mais il est pas mal, mais c'est pas Redford quand même. Il est pas aussi glamour que ça.
Alors Jesus dont on parlait, donc il avait sorti chez Air Libre Judicial, donc en collaboration avec Juan Diaz Canales, et Juan a lui-même travaillé avec Teresa Valero, qui sortira donc en septembre le tome 2 de Contrapasso dont on vient de parler chez Herbois. Et en fait, tout le monde se connaît, c'est une grande famille.
Oui, alors là, c'est sûr. Alors, ce sont des gens qui sont, ce sont des auteurs très talentueux. Ils sont espagnols de Madrid et ils sont tous passés par le même studio d'animation où ils ont un peu fait leurs armes, parce qu'en fait, en Espagne, il y avait pas à l'époque, ils ont commencé à travailler d'école de bande dessinée. Donc, ces gens qui avaient envie de faire de la bande dessinée ont tous été orientés vers l'animation. Et ils ont tous travaillé pour le studio d'un autre grand talent qu'on a publié aussi chez Dupuis, qui est Antonio Zuera, dont nous avons publié Marécage en deux tomes, qui était le directeur de ce studio et qui lui-même, ayant voulu faire de la BD n'ayant pas réussi, a fait sa carrière dans l'animation, est devenu réalisateur d'animation et a embauché tous ces jeunes gens plein de talent, dont Juan Diaz-Canales, le scénariste de Corto Maltese et de Black Sad, et également Juanjo Garnido, le dessinateur de Black Sad, et également Teresa Valero, qui est devenue l'épouse de Juan et avec qui elle travaille, et Jesús Iglesias, qui maintenant fait le design des personnages pour les films d'animation Spider-Man de Sony. Donc c'est vrai qu'ils sont extraordinairement talentueux et ils aiment tous la bande dessinée d'une manière formidable, c'est-à-dire qu'ils ont tous envie d'en faire, alors qu'ils pourraient certainement beaucoup plus gagner leur vie en ne faisant que d'animation. Mais c'est des fous de bande dessinée. Le Contrapasso numéro 1 de Teresa Valero qu'on a sorti en 2021 faisait, je crois, 150 pages à peu près. Là, le nouveau en fait près de 200.
Oula.
Elle a passé presque 4 ans à le créer et c'est un tour de force, mais aussi bien graphique que narratif, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Je trouve que vous allez voir quand le bouquin va apparaître. C'est étonnant, oui. C'est fin août, début septembre. Là, c'est vraiment un livre remarquable. Ouais, ce sont des livres remarquables. Alors, c'est ce qu'on va essayer d'avoir dans Air Noir. Des livres dans le domaine du roman noir graphique, mais tous différents, tous remarquables et pas dans la parodie. On peut être dans l'humour, comme avec le Dortmunder qu'on fait avec Ressus, mais c'est parce que Westlake l'a écrit comme ça. On fera pas un pastiche. On n'est pas là pour ça. Si Westlake a fait lui-même une parodie, on peut la reprendre à notre compte, mais on ne va pas s'amuser à se moquer d'un genre qu'on respecte beaucoup et dont on a envie de faire des beaux jours sous une forme de bande dessinée.
Alors, toujours dans Air Noir, Nada. Alors là, donc, c'était le roman de votre père, oui. Donc Jean Bataille Manchette, qui était sorti en 72, qui avait donné lieu donc à une adaptation chez Chabrol. Ça vous avait inspiré l'adaptation de Claude?
Ah ben oui, parce que en fait c'est le film sur le premier plateau de cinéma sur lequel j'ai mis les pieds quand j'étais môme, mais donc je devais avoir 11 ans à l'époque. Et je me souviens très bien de cette journée sur le tournage où j'avais sympathisé avec le fils de Claude, Thomas Chabrol. Voilà, c'était formidable parce qu'on était des enfants sur un tournage de film, une expérience merveilleuse. Et du coup, oui, j'ai toujours gardé beaucoup d'affection pour ce roman et pour ce film. Et donc, on a adapté ça avec Max Caban d'abord en Air Libre en 2018. Je crois que c'est vraiment une des meilleures adaptations qu'on a fait avec Max. C'était aussi un très gros livre, hein, qui faisait près de 200 pages. On a mis du temps à le faire. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait dans Air Noir, pouvoir abriter certains ouvrages qui avaient été publiés chez Dupuis ailleurs que dans une forme qui aurait pu vraiment l'aurait bien destiné. Que là, on avait cette chance d'avoir ce label qui se créait, où on pouvait reprendre un certain nombre de titres, notamment ceux que j'ai fait avec Max, adaptés de Manchette. Donc voilà, c'était un bon moyen, et au fur et à mesure que ces livres s'épuisent, on va les reprendre petit à petit sous cette nouvelle forme. Bon, ça changera pas énormément parce que c'est le même format, Air Noir, le même format, la même présentation un peu que...
Tu changes les couvertures.
On change les couvertures, on va changer de courtes choses, mais le contenu, non, on va rester le même. En tout cas, pour Nada, on va rien changer. Voilà, et puis je pense que le prochain donc ressort aussi à peu près en même temps au mois d'octobre. Ce sera Kedo, qui est le dernier aventure du détective privé Tarpon, et sortira en même temps que Nada, où c'est un peu la conclusion d'un long parcours de 17 ans qu'on a fait avec Max autour des bouquins de mon père, et je veux dire qu'on s'est vraiment beaucoup amusé et qu'on a pris beaucoup de plaisir à le faire.
Quand on voit une adaptation au style Nada par Chabrol, est-ce que ça vous inspire, ou au contraire, ou dites-moi, je préfère retourner à l'essence même et au roman?
Alors on est parti du roman hein, pour Nada, d'autant que Max n'avait pas vu le film et n'a pas voulu le voir, ce que j'ai trouvé un peu dommage, parce que moi c'est la seule adaptation filmée de mon père que j'ai trouvé sympa. Je trouve que c'est plutôt un très bon film, et il y avait des choses qui moi m'étaient restées en tête. Bon, mais Max a choisi d'aller dans une voie tout à fait originale. Il voulait faire imaginer les personnages à sa façon. D'ailleurs, en effet, il ressemble pas tellement à ceux du film, sauf peut-être Bonaventura Diaz, l'anarchiste catalan, mais sinon les autres sont vraiment différents. Je crois que c'est vraiment des questions personnelles. Moi, j'avais été marqué par le film parce que, en effet, je trouvais qu'il était bien, mais Cabane n'a pas eu envie d'aller le voir pour transformer son propre imaginaire, pour rester dans sa façon de voir les choses, et je trouve qu'il a bien fait, parce que son travail était formidable sur ce livre. C'est une vraie recréation du Paris des années 70, de la France de Pompidou, qui est assez incroyable. Nada, pour moi, c'est vraiment une très grande BD qu'on avait faite. C'est impressionnant pour moi le travail graphique que Max avait fait là-dessus.
Qui reste d'actualité, finalement.
Et en plus, voilà, mais je ne cesse de dire aux producteurs de cinéma qui viennent de me demander quel bouquin de Manchette on peut adapter, si c'est Exil les droits de tel ou tel son livre. Je leur dis, mais il faut faire Nada, qui a été fait une fois, mais il y a quand même près de 50 ans, et qui maintenant est complètement d'actualité, parce que voilà, on parle des mouvements ultra-gauche, on parle des Black Blocs, on parle de tout ça. Et ben, c'est toujours vraiment ce qu'on lit dans les journaux aujourd'hui, quoi. Et il y a d'autres manières d'être anarchiste ou d'être anti-système maintenant, mais les moyens d'expression peuvent être un peu similaires. Donc voilà, il faudrait s'y pencher. J'aimerais bien qu'un cinéaste français ou belge se penche sur ce livre et essaye d'en faire une.
C'est dansé. Donc, un grand merci. Donc, on rappelle Parker, qui vient de sortir dans cette nouvelle collection Air Noir chez Dupuis.
Merci beaucoup.